France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Benoît, très heureux ce matin d'accueillir un grand musicien, Monsieur William Scheller, auteur, compositeur, interprète de chansons, mais aussi symphoniste à part entière, qui m'a séduit par ses quatuors, ses concertos et autres œuvres magnifiques qu'il a publiées. Voici quelques mois, William, un livre de souvenirs où l'on découvre son enfance franco-américaine, le Paris des années 50, les premiers succès au Hit Parade, les amitiés avec Barbara ou Catherine Lara. William Scheller, dans quelques minutes, évoquera cette vie haute en couleurs. À midi, votre programme de musique légère. L'année se termine bientôt, mais c'est ainsi que les samedis s'enchaînent et que je cours toujours.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la part. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Et je regarde ceux qui s'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Bonjour William Scheller.
Bonjour.
Voilà une belle chanson que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Elle est tellement, tellement bien faite. Je crois que c'est un bon souvenir pour vous aussi. C'était à Los Angeles.
Oui, oh, ça fait partie des chansons que j'aime bien, moi.
Ah bon, alors je suis bien tombé.
Avec de bons souvenirs. Ah oui, oui, Los Angeles avec... je suis parti avec Lee Halliday.
Ouais.
Oui.
Et, de la famille de Johnny, hein.
Évidemment, mais c'est, oui, oui. son oncle, entre guillemets. Alors, bon, quelqu'un m'a appelé d'Universal. T'as pas envie, t'as rien. J'ai dit, ah non, j'ai rien. Etc. Puis, alors, en me disant, là, ils vont renoncer. Je leur ai dit, ou alors à Los Angeles. Si tu veux. Comment ça, si je veux? J'aurais été bien bête de ne pas dire non. Alors je suis parti là-bas. Et à ce moment-là, Lee m'a apporté des albums de gars que je connaissais déjà. Je les connaissais par Supertramp, par Toto, par tout ça. Et il me dit, ils sont là-bas. Ils sont là-bas en ce moment, ils ne foutent rien.
Des musiciens extraordinaires, faut préciser.
Ah oui, Jim Keltner, qui a travaillé aussi bien avec Hallyday qu'avec les Who, qu'avec les Beatles, formidable, formidable.
Mais alors, vous avez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à enregistrer ce disque, mais quand vous travaillez avec, vous qui êtes un vrai musicien, un compositeur, on va y revenir, quand vous travaillez avec ce genre de musiciens, vous leur donnez des directives très précises, des partitions, ou alors c'est un petit peu à l'impro?
Ah, ça dépend. Ça dépend. Alors, c'est drôle parce que je suis arrivé en studio, les gars sont arrivés à leur pile. Hein, et ils demandent à Lee, qui est-ce qui produit ? Il me montre, il dit, bah, c'est lui. Ah, bon. Et Jim Keltner me dit, bon, je voudrais savoir quelle caisse claire il faut que je prenne. J'ai dit, oulala, non, on va aller dans le studio, on va écouter les 10 mots, et puis à partir de là, on va travailler comme fait un groupe. Ça les a branchés parce que ils étaient libres, quoi.
Voilà.
Ils étaient libres.
Voilà.
On a fait ça comme un groupe, quoi.
Alors ça, c'était, ouais, c'était en 1979, hein, je précise, William Scheller.
Et
oui, déjà, mais moi, je me rappelle bien de cette chanson parce qu'elle est très, très bien faite. C'est ça le cas souvent chez vous. Parce que vous êtes peut-être un des seuls artistes français, pour ce qui est de la chanson, à être à la fois auteur, compositeur, interprète et orchestrateur de ces chansons.
Ah, complètement. Ouais. Et puis même, j'assiste aux enregistrements et puis au mixage et voilà.
Voilà.
Oui.
C'est
oui,
un produit William Scheller de A à Z, on peut dire.
Ah oui. J'emporte la bande, pratiquement terminée, je fais les textes.
Voilà.
Hop, je retourne pour mettre la voix. On me dit, bah, attends, on va changer légèrement le mixage. Et puis je reviens. Voilà, c'est fini. Mais ça doit être conçu dès le début.
Voilà.
Des fois, on me dit, oh, dis donc, on a un truc de rock, là, est-ce que tu peux pas mettre des cordes dessus? Alors, j'écoute le machin, je dis, mais vous avez déjà rempli tout le spectre. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, là?
Et voilà, ça, c'est ça.
Il faut que ce soit conçu avant, quoi.
La raison, évidemment, William Scheller, c'est que vous êtes, et c'est l'autre chose dont on va évidemment parler aujourd'hui, vous êtes un compositeur à part entière, vous avez écrit des œuvres magnifiques. Je voudrais tout de suite faire écouter aux auditeurs, par exemple, un petit passage d'une œuvre que je trouve géniale, c'est la fin du premier mouvement de votre concerto pour trompette. Et c'était 15 ans après, Je cours tout seul, ce magnifique concerto, fin du premier mouvement, Thierry Kans avec l'ensemble Ostinato sous la direction de Jean-Luc Tingaud. J'ai envie de dire une musique de William Scheller, petit-neveu d'Albert Roussel et Jacques Ibert, ça vous irait?
Ouais, bah, Mon maître, qui n'a pas eu le bonheur de percer à cause de la guerre de 14, enfin, c'était un élève de Gabriel Fauré, qui lui-même avait travaillé il est de l'époque aussi.
Mais il y a cette énergie rythmique aussi dans cette musique qui se mêle à une belle écriture classique, une orchestration pleine de couleurs.
Moi, je prends un rythme et puis paf, j'y vais. Je compose pas avec des trucs qui ralentissent et puis qui excèdent. Je sais pas, j'ai besoin d'un pam, 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 pam. Et que ça avance, quoi. Ça, c'est syndrome Stravinsky, ça.
Faut
savoir. J'ai entendu du Stravinsky la semaine avant de naître.
C'est-à-dire
que j'étais dans le ventre de ma mère et tous les soirs, elle allait écouter, elle allait voir un ballet de Stravinsky.
Jeu de cartes.
Jeu de cartes. Voilà. Et je l'entendais, moi, dans son ventre. Alors peut-être que ça a laissé des traces. Je sais rien, mais enfin.
Je me suis d'ailleurs demandé, des années après, dans la musique que vous avez fait pour le film Arlette, il y a un petit morceau qui s'appelle Jeu de cartes. Alors je me suis demandé si ça ravivait le souvenir de Stravinsky.
Oui, peut-être, mais en fait, c'était parce que c'était pour une séquence où une jeune femme tirait des cartes. Ça m'intriguait. Puis c'est pas, j'ai écouté le jeu de cartes, c'est pas ce qui me plaît le plus chez Stravinsky.
Voilà, vous n'êtes pas un chanteur qui a fait quelques compositions, vous êtes un compositeur à part entière, et c'est ça qui est magnifique, qui a commencé par faire pas mal de chansons, dont certaines ont eu beaucoup de succès. Et vous parlez de tout ça, William Scheller, dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, ça s'appelle William, par William Scheller. Et c'est un livre, j'ai envie de dire, alors pour le coup, aussi très littéraire, très personnel, où vous parlez aussi bien du bal des pompiers, de vos amis, de votre famille, que de votre carrière.
Je parle beaucoup moins de la carrière. Non, c'est-à-dire que quand on fait les émissions, en général, bon, on parle du nouveau disque, du nouveau machin, du nouveau truc, mais on ne parle jamais du bonhomme, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et puis moi, j'ai eu envie de dire des choses vraies. Ils en disent, et ils en lâchent. Et ils en lâchent plus qu'on ne pourrait en lâcher dans certains magazines.
Y compris sur vous-même, et vos excès, vos abus.
Exactement. L'individu, le bonhomme, le gars, le môme qui est complètement déboussolé, qui arrive en France à 7 ans, et puis boum, et puis une vie de bâton de chaise. Ah oui, toute une vie, mais une vie humaine.
Que cette vie de bâton de chaise, vous y avez été assez bien préparé par une mère qui était quand même une aventurière, on peut dire.
Ah, celle-là, oui. Ah, la chameau. Non, mais oui. Faut voir aussi ces adolescentes en pleine guerre, c'était pas... Elles avaient une façon de penser, ça leur a forgé une façon de se défendre, de se bagarrer, d'un chat comme ça. Ouais. Et c'est un peu la pensée des femmes de cette époque. Mais alors... C'était quand même un sacré chameau, je n'étais pas le seul à le dire.
Oh là là. D'ailleurs, elle ne s'est pas énormément occupée de vous, c'est plutôt votre grand-mère qui vous a élevé. Et votre père, alors vous l'avez connu, votre vrai père, beaucoup plus tard, c'était donc un soldat américain que vous avez rencontré vous ne l'avez pas rencontré, vous l'avez redécouvert après sa mort. Mais vous avez été élevé par un autre américain qui était l'amant de votre mère et que vous preniez pour votre père, en fait.
Exactement, c'est lui qui m'a donné son nom.
Voilà.
Je m'appelle William Hand.
Voilà.
Mais mon père s'appelle Colin Thomas MacLeod. Je suis écossais, en fait.
Voilà.
Enfin, américain-écossais.
Américain-écossais. Et vous avez retrouvé, il y a quelques années, vos demi-frères et sœurs aux États-Unis.
Voilà, puis ma sœur qui a déjà préparé l'endroit dans le carré du cimetière des MacLeod, elle a préparé le même truc pour mes cendres.
Ah bon, d'accord.
C'est gentil comme attention, mais en fait, c'est bizarre.
Alors, en tout cas, William Scheller, vous êtes revenu, vous nous l'avez dit, en France à l'âge de 7 ans, après quelques années aux États-Unis. Et alors, on va écouter tout de suite une petite chanson, parce que je crois que vous l'aimez bien. Et en plus, c'est vraiment le pari d'avant, le pari en noir et blanc dans lequel vous avez grandi.
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette boule qu'on appelle la Terre. Et même ceux que nous admirons sont plus à l'abri de la misère. Tenez dans le milieu l'autre jour, à midi juste, à la pendule. Ce bruit affreux n'a fait qu'un tour. On a fauché la bague à Jules. Jules, c'est un caïd, une terreur, mais un malin presque artiste. Un gars qui fait jamais d'erreur. Une mine d'or pour les journalistes. Pour une fois qu'il se faisait masser de l'orteil à la clavicule. complètement nu comme vous pensez. On a fauché la bague à Jules, une petite bague de rien du tout, 200 grammes d'or autour d'un diamant, des petits saphirs un peu partout. Seulement la bague lui venait de madame, qui un jour de son ton guindé, respectueuse, qui déambule, a dit mesdames c'est décidé, on va offrir la bague à Jules. Les scous, les pépés, les carrefours, les selles que la morale tolère, les belles de nuit, les belles de jour, les faux pois et les vraies douairières, tout ont augmenté leurs tarifs afin d'arrondir leurs pécules. Il y a eu du marathon sportif pour alourdir la bague à Jules. Hélas, depuis qu'on a fauché l'ornement de son auriculaire, la clientèle peut s'approcher, fini le moindre effort pour lui plaire. Et malheur au gars qui dirait, comme ça bêtement, sans préambule, pardon mademoiselle, c'est ivré qu'on a fauché la bague à Jules. Et Jules lui-même, c'est pire encore, il ose plus dire bonjour aux potes, il sait plus quoi faire de son corps. Quand il est tout seul, il sanglote. L'après-midi, quand il est levé d'un air penaud et ridicule, il va voir aux objets trouvés s'il n'y aurait pas la bague à Jules. Tenez, l'autre soir, n'y pouvant plus, tremblant comme un qu'à la jaunisse et cachant ses gros doigts poilus, il est allé à la police. Et là, au commissaire soufflé, il a dit tant pis, c'est régule. Il y aura 10 sacs pour le poulet qui rapportera la bague à Jules. Et pendant ce temps-là, pas bien loin, le fortiche qu'a fauché la bague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague. Car sa loupe lui a révélé la vérité sur le bidule. Dans l'histoire, tout le monde est volé. Elle était fausse, la bague à Jules.
L'accordéon de Jos Vasely avec la grande pâte à choux. Vous aimez sa voix, William Scheller?
Ah oh, oh oui. Hein? Ah oui, oui.
C'est oh, formidable. Bah,
je chantais cette chanson-là par cœur, mon temps boss.
C'est vrai?
Ah oui. Ah oui, moi j'aimais bien la chanson française. Je sortais du jazz, moi.
Oui. Tous les ah, aux États-Unis, vous avez infligé le jazz, hein, c'est ça?
Oh, m'a infligé. Non. Non, 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 c'était pas infligé. C'est, ça m'a infligé une drôle de vie. Bon, c'est vrai que les copains de mon père, hein, ils s'appelaient Miles Davis, ils s'appelaient Duke Ellington, ils s'appelaient, c'était des gens comme ça. Mais pour moi, c'était les copains à mon père qui venaient faire du bruit, parce que je sais pas quelle heure. Et alors, bah, c'est tout, quoi, quand on a 5 ans, qu'est-ce qu'on se rend compte?
Bah oui.
Si, alors j'ai retrouvé Kenny Clarke, une fois à une émission,
ouais, c'est quand même pas mal, hein.
Ouais. Et puis, alors, je suis allé le voir, j'ai dit, tu sais qui suis? Je suis le fils de Jack. Oh, je t'ai eu sur les genoux et tout. Enfin, bon. Mais pour moi, c'était, voilà, je connaissais que ça.
Mais alors,
et
donc.
Puis, je suis arrivé, j'ai appris la chanson française.
Voilà. Ah, et dans votre livre, quand vous faites le récit de ces années, ces premières années que vous passez à Paris, donc chez votre grand-mère, qui a un petit appartement très modeste, hein, votre mère vous a laissé chez elle. Mais c'est vraiment le Paris de Carnet, de Duvivier, de Clouzot, le Paris d'autrefois, je disais en noir et blanc tout à l'heure, on a vraiment l'impression que vous avez grandi dans ce temps-là, quoi, qui est très loin de nous et qui pourtant est encore tout proche.
Ah eh ouais. Ah oui, c'est vraiment le Paris. C'était crasseux et c'était noir. Ça se voit sur les actualités qu'on voit à l'époque. L'Arc de Triomphe était noir, c'était dégueulasse. Alors bon, c'est De Gaulle qui a fait tout nettoyer, mais pendant longtemps ça a été sale, quoi, vraiment.
Les gens se parlaient puis, dans la rue aussi, il y avait les petites boutiques, dans les immeubles, il y avait la vie des différents étages, mais il y avait un côté plus de proximité, je sais pas.
Ben c'était, oui, chaque quartier était un petit peu une petite province, quoi. Tout le monde s'y connaissait. Il n'y avait plus tellement de quoi se loger, il y avait beaucoup de choses qui avaient été démolies, donc les gens habitaient dans les hôtels. Et puis, ben, il n'y avait pas le téléphone, alors il y avait le bistrot d'en bas qui avait le téléphone, donc il appelait les clients dans la rue. Madame Maillard, il gueulait dans la rue. Donc ma grand-mère savait qu'on l'avait appelé au téléphone. Moi, il y a un petit café, on pouvait avoir ce service, mais ça, et tout. Ce qui faisait que tout le monde connaissait tout le monde, quoi. C'était assez marrant.
Voilà.
Ah, c'était vous, bien.
Vous racontez des auditions que vous passez avec deux filles absolument extravagantes. vous rappelez leur nom, Marie-Dominique,
oh, oui.
Non, c'est ça, oui.
Oui. Marie-Catherine. Oui, oh, celle-là. Non, mais elle était un peu zinzin. Oui, non, mais elle était zinzin. Mais sa sœur était une bombe. Mais elle avait 16 ans. Une merveille, une bombe. Et la pauvre Lily. Et elle était un peu morigénée. Et puis, des accès dans la chanson. Elle chantait très bien, je l'ai appris pas après. Voilà. Mais elle la faisait chanter mal exprès pour qu'elle la gêne pas dans les auditions. C'est une horreur.
Elle a fini par rentrer au Crazy Horse. Et puis,
elle n'empêche que la belle, elle a fini au Crazy Horse. Voilà. Oui, exactement. Ce qui n'était pas plus mauvais, parce que c'était une boîte, enfin à l'époque, tout le monde, c'était une boîte très élégante et où les filles étaient vraiment considérées, etc. Enfin, c'était bien. Elle a bien réussi.
Et le monde du spectacle, donc, William Scheller, vous y êtes entré très jeune, vous nous le disiez un peu tout à l'heure, parce que votre grand-mère, elle, travaillait comme ouvreuse au théâtre du Châtelet, et votre grand-père, lui, faisait des décors au Palais Garnier.
Tout ça, c'est... Oh là là, vous en sortirez pas. Ma grand-mère, elle a toujours travaillé au Théâtre des Champs-Élysées. Boum. Ouais. Quand mon grand-père y a travaillé aussi pendant longtemps. Mais mon grand-père, qui était marin avant, il a commencé à l'opéra. Pourquoi ? Parce que, comme il avait débuté il y a... Boum, dans les années 10-20, peut-être un peu plus... Enfin, dans l'époque où on faisait des bateaux en bois. Donc, les opéras... Ils engageaient les marins parce qu'ils savaient ce que c'était que les cordages et tout voilà. Donc, oui, alors donc il a commencé à travailler à l'opéra. Ensuite, il est allé aux Champs-Élysées, vers 1913 apparemment, parce que c'est là que ça s'est ouvert. Et puis, après c'est ma grand-mère qui est allée, et puis après moi j'y ai travaillé aussi.
Mais attendez, vous avez fait vos débuts quasi enfants, si je peux dire, sur scène, par exemple, dans Wozzeck d'Albanberg.
Ouais. Oui, avec mon dada. Un truc effroyable. J'avais pas conscience que c'était un grand chef-d'œuvre de la musique contemporaine. Ben non, mais c'est le Wozzeck d'Albanberg, un truc. Bon, maintenant. Mais alors, franchement, j'entendais, je me disais, qu'est-ce que je joue, là? Bon, je joue un petit gosse avec un dada, là, un manche à balai avec une tête de cheval. Et puis, pendant que la mère, elle chantait des choses bizarres, en guise de, voilà. J'ai gagné 5 francs de l'époque.
Ah bah c'était bien.
Hein, n'empêche que... Ah ouais, ça je m'en souviens. Ta marque. Ce théâtre, c'est chez moi.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Encore un petit chef-d'œuvre, mais alors il n'est pas de Scheller celui-là, il est de Tchaïkovski. Vous aimez la danse des petits cygnes?
Oui, c'est bien. Ça a servi de parodie, mais alors, pas croyable. Ça a été dansé par des cochons.
C'est vrai.
C'est très drôle. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très chouette ce petit morceau.
Ouais, très
joliment
orchestré.
Je savais le danser.
Ah oui, parce que vous alliez aussi au spectacle de ballet, évidemment, avec...
J'y allais sans arrêt. Ouais. J'allais au Théâtre des Champs-Élysées, qui est école ou pas école, j'y allais au moins 2 fois par semaine, avec ma grand-mère. Et je dansais, moi, sur le plateau, pendant qu'elle retirait les toiles, enfin, etc. Et il y a un vieux monsieur, un jour, qui est arrivé, en disant, mais qui c'est ce petit garçon qui danse sur la scène? Et on lui a dit, c'est le petit-fils de Mme Mayer, je pourrais voir cette dame. Alors, il l'a vu, ma grand-mère a l'impression qu'elle allait se faire engueuler. Et il lui a dit, écoutez, je m'appelle Serge Liffard. Et ce garçon, mais il a pris des leçons? Pas du tout, il s'amuse. Mais il s'amuse, mais c'est mieux que ça. Moi, je voudrais le prendre dans mon école, voilà. Bon, et alors là, discussion à la maison. Alors, c'était niette. Hein.
Vous avez
ma
raté...
grand-mère. Ah oui,
une vocation.
Une carrière magnifique.
Ouais, vous pensez
Ah non, parce qu'avec le temps, je suis devenu quand même, je suis quand même carré. Je suis pas comme Jörg Born, on a l'impression que c'était un buffet Henri II qui faisait des grâces, c'était terrible. Non. D'après ma grand-mère, la raison, ma grand-mère, d'abord on gagne pas un rond, ça se voit qu'ils bouffent pas puisqu'ils sont tout maigres. Ouais, c'était ça. Et ma mère, non, parce que ceux qui font de la danse, ils deviennent homosexuels.
Ah voilà, c'était l'autre raison. Voilà.
Alors, on signe pour les cours, pouf, ça y est. C'était n'importe quoi.
William Scheller.
Mais finalement, non, moi ce qui m'intéressait, c'était la musique.
Et justement, William Scheller, j'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre avec celui qui a été vraiment votre professeur de musique et davantage, puisque vous avez été son élève dans tous les domaines. C'était donc cet élève de Forêt qui s'appelait Yves Marga.
Ouais. Qui avait fait à l'époque, enfin qui a écrit plusieurs œuvres, qui a écrit des choses, et notamment les traités. Et j'avais lu ces traités
d'harmonie.
Je comprenais rien du tout. Ouais. Eh ben j'ai eu le culot, comme on a le culot à 15 ans, quoi, de demander de savoir où il habitait, et puis je suis allé, puis j'ai sonné chez lui.
Ben, voilà.
Voilà. Et puis, à partir de là, il y en a eu pour 7 ans.
Sept ans au cours desquels il a été donc à la fois votre professeur de musique, mais aussi votre précepteur. Il vous donnait les leçons de français, de latin, d'arithmétique, de tout. Hein, je sais pas.
Évidemment, parce qu'on pouvait pas, on ne pouvait pas quitter les études. Ouais. Habituelles. On pouvait pas quitter les études avant 16 ans. Donc il a dit à ce moment-là, moi je me pose en précepteur, comme ça, il pourra commencer plus tôt, parce qu'il est déjà en retard pour le conservatoire. Bon. Parce que lui, il voulait pas souper de Rome et tout le bazar. Donc, il s'est posé en précepteur. Mais ce qui fait qu'avec lui, c'était complètement différent. Je veux dire, j'ai étudié de la littérature de sa jeunesse. C'est-à-dire, j'ai étudié Gide, j'ai étudié un tas de gens extraordinaires qu'on n'étudiait pas à l'école, quoi. J'ai appris le latin, parce que, avec joie. En plus, avec joie, parce qu'il m'emmenait en vacances. Et il me disait, tiens, regardez là, qu'est-ce qui est écrit là sur l'église? Alors je voyais fort et tout, hein, je voulais leur dire c'était fort et tout. Mais il m'a dit, mais non, forte ça veut dire peut-être, parce qu'on dit bien a fortiori. Hein. Ah. Et toi, c'est peut-être la tienne, donc cette heure-là est peut-être la tienne. C'était vachement sympa d'apprendre le latin comme ça.
Voilà, et c'est un maître merveilleux auquel vous rendez hommage dans votre livre, et qui malheureusement a été un petit peu, il faut le dire, soyons honnêtes, un petit peu déçu le jour où vous êtes pris de passion pour les Beatles, et vous avez décidé de changer de style musical.
Ben oui, parce que les passions pour Boulez, non. Et c'était la dictature Boulez à l'époque, puis dès qu'on entendait des sons qui avaient l'air de s'arranger ensemble, ça allait pas. Donc moi je me voyais pas faire tout le boulot pour obtenir un prix de Rome aléatoire, et pour au final faire des couineries. Enquiquiner tout le monde, j'allais dire un autre mot, mais on est à l'antenne. Alors j'ai dit non, et puis à la même époque, j'entends les Beatles. Voilà. Alors là, waouh.
Et là, donc, vous êtes jeté, j'ose dire, à corps perdu, comme beaucoup de jeunes gens de votre génération, dans la pop, dans les groupes. Vous avez un petit peu galéré, mais assez vite, vous avez, en 68, écrit la musique d'un vrai tube qui a été repris par des artistes importants, notamment, par exemple, par Madame Dalida.
Tout s'efface autour de moi lorsque la ville s'endort. Je ne vis plus que pour toi lorsque la ville s'endort. Tous ces murs écrasés sous les toits sont un décor et les rues sont. Se me poursuit lorsque la ville s'endort. Je voudrais peupler la nuit lorsque la ville s'endort. Ce n'est plus que l'ombre de tes bras et de ton corps.
je veille encore.
Ici même, en face de moi, William Scheller, dans le studio de France Musique, certains disent « Ah, mais c'est une chanson de William Scheller !» Évidemment, ils connaissent la version de Dalida, mais ils ne savent pas forcément tout ce que c'est de vous. Hein.
Oh ben non, la version anglaise, oh là, elle date. Elle est sortie en même temps que Daydream, c'était une période assez faste. Bon, ça a marché terriblement.
Ça s'appelait Mayer.
Moins en France.
Mayer is a day,
Voilà, exactement. Des petits Américains qui étaient en France, et puis voilà. Et ça a été un gros succès. Maintenant, on peut le réentendre, pareil, au début du James Bond qui vient de sortir, là.
Ah oui, en plus, c'est vrai, oui, j'ai vu. Oui.
Ça redonne une vie, et bon, voilà, quoi. Mais c'est amusant de voir les choses qui réapparaissent.
Vous aimez bien cette version de Dalida?
En français, c'est pas pareil.
Ah oui, vous préférez le rythme.
Enfin bon, elle le chante bien, etc. C'est une grande bonne femme, etc. Non, mais j'aime bien la bonne femme. Mais en français, un truc anglais en français, ça a toujours un... C'est pas fait pour.
Voilà. En tout cas, William Scheller, vous avez 20 ans, vous sortez ce tube et ça vous met un peu à l'abri pour quelques années pour pouvoir vous lancer davantage
longtemps.
Dans le métier. Pas longtemps, non, c'est vite parti.
Ben oui, parce que j'ai dépensé tout le fric pour écrire une messe de mariage pour des amis. Voilà, qu'on a joué le jour de leur mariage, qu'on a sorti en album et j'ai dû en vendre 50. Et puis petit à petit, ça a commencé à se diffuser, Maintenant, c'est devenu un truc culte. C'est un truc, ça se trouve, pendant un moment, ça se trouvait, mais à des fortunes, opus au Japon. Voilà. Pourquoi? Et puis, il s'est ressorti. Maintenant, ça devient une espèce d'album mystère. Enfin bon, c'est très bien.
Et alors vous, en même temps, vous vous êtes fait aussi une réputation, on peut dire, dans le milieu de la chanson, à ce moment-là, aussi d'arrangeur, d'orchestrateur. Ça a été le cas de nombreux artistes qui ont fait appel à vous pour écrire des cordes. Il paraît que Barbara, notamment, qui est devenue une amie, adorait vos cordes, auxquelles elle prêtait une certaine couleur même.
Ben oui, mes cordes bleues.
Vos cordes bleues, voilà.
Oui. Ah, c'était spécial, là. Barbara, c'était spécial. Ça a dépassé vite l'idée du boulot.
Ouais.
C'est j'ai fait des trucs comme des groupes comme Titanic, des machins, des groupes norvégiens et tout comme ça. Mais là, c'était un peu particulier. Quand je l'ai rencontrée, d'abord, je suis arrivé habillé en blanc alors qu'elle avait dit je n'ai jamais travaillé qu'avec des hommes bruns.
Oui, c'est vrai.
Comme c'est une femme qui quand même l'esprit ouvert et intelligent. Là, on s'est entendu très vite, mais même c'est devenu une affection abstraite et qui montait très haut, on se comprenait des fois, des trucs, je pensais à l'avance qu'elle allait me dire, enfin, des choses comme ça.
Vous habitiez chez elle, d'ailleurs, à la campagne, pendant un certain temps.
Et ah oui.
Je veux quand même dire, moi, le premier disque que j'ai aimé de Barbara, là aussi, j'avais pas réalisé, c'est comme pour Dalida, je m'en suis aperçu en préparant l'émission, le disque avec Marianne Bad. Mais c'était William Scheller qui avait fait toute la couleur musicale du disque, la louve, voilà.
Oui, je suis resté, oh là là, ça a pris plus de 6 mois.
Ouais.
6 mois avec toquer à ma porte de chambre à 3h du matin.
Ouais,
c'est ça. Oui, tu dors? Non, tu parles. Et j'ai une idée, j'aurais pu faire entendre, n'importe quoi. Je traversais tout, et puis c'était pour trouver un accord.
Ah oui.
Tu vois, là, je voudrais pas que ça dise ça, je voudrais que ça dise ça, et puis ça, machin. Alors, donc, je dis, si t'essayais ça, plunk. Ah oui, fais voir, c'est pas mal. Clunk, clunk, clunk. Fais-moi voir comment tu fais. Clunk, clunk. Ah bon, d'accord. Ah ben, ça va, alors je peux continuer. Alors, j'ai plus qu'à m'en coucher, moi.
Et alors,
me trompis. C'était bien.
Le terme d'arrangeur, ça vous convient?
Non.
Non.
Un arrangeur, c'est quelqu'un qui replâtre.
Ouais.
Pareil. Ah oui, faire des arrangements, ça veut dire replâtrer un morceau. Enfin, à l'origine. Hein.
Ouais.
Et puis, après, non, moi, je suis orchestrateur. Oui.
Orchestrateur, d'accord. Voilà.
Orchestrateur, oui, bien sûr.
Ah oui, c'est important parce que c'est une notion effectivement différente. L'arrangeur, en fait, il recompose pour une partie le morceau, oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire qu'avant, dans le temps, on entrait à la SACEM comme mélodiste.
Ouais.
Il y a eu des auteurs de, comment il s'appelait, qui a écrit énormément d'opéras, des choses comme ça, je ne sais pas son nom. Il ne pouvait signer que en tant que mélodiste, voilà, et non pas en tant que compositeur, parce qu'il ne savait pas écrire les harmonies. Voilà. Donc, on passait un concours. J'ai passé un concours, moi. On m'a donné une mélodie, puis on m'a demandé de la développer sur 20e mesure, et puis etc., enfermé dans une pièce. Bon, et on passait un concours. Donc, à partir de là, on pouvait devenir arrangeur. Ensuite, c'était l'orchestration. Alors ça, j'ai attendu un peu avant qu'on m'accorde le fait de... Voilà. D'écrire des orchestrations et de me dire orchestrateur, quoi. Moi, je sens mieux le mot orchestrateur.
Orchestrateur. Alors, vous auriez pu continuer à faire ça pendant des années, en faire un métier à part entière, mais finalement, le succès du chanteur est arrivé à ce moment-là, très vite, avec une série fulgurante de succès, à commencer par Rock and Dollars. C'était prévu comme des morceaux faits pour faire des succès?
Bah oui, mais pas pour moi. C'était la copine d'un producteur de disques qui avait inventé les disques sans trous. Enfin, ça, je raconterai ça. Je suis en train de faire un deuxième bouquin.
Ah oui, d'accord.
Mais je raconte là le métier. Un gars qui avait inventé de faire des disques sans trous, qui vendait au Japon. Le temps que ça arrive au Japon, qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y avait pas de trous, ils avaient quand même fait escompter la commande. Comme ça, ils pouvaient enregistrer du free jazz que personne ne voulait acheter. Ouais. Enfin bon, c'était à l'affaire. Et puis alors, ils refaisaient des trous après. Enfin bon, c'était un truc à nettoyer. Bon, c'était sa copine. Elle était chorégraphe, des fois. Voilà, genre, les Liliana qu'on voyait supposées nues sous des imperméables derrière sa chenistelle, c'est elle qui faisait les chorégraphies. Ah. Donc elle voulait chanter, voilà. Et elle était connue. Et elle voulait chanter. Mais elle voulait quelque chose d'efficace. Alors bon, j'ai fait ça. Et puis j'en ai pas entendu parler pendant 6 mois. Et puis,
vous pensiez même un peu que vous n'aviez pas vraiment une voix pour être chanteur?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'ai
jamais
eu. D'ailleurs, jamais eu. D'ailleurs, Barbara me l'a dit. Il m'a dit, t'es pas un chanteur, t'es un diseur. C'est pas pareil. Voilà. Mais c'est vrai. Elle a raison.
N'empêche que ce morceau, vous l'avez enregistré. Ça a été un tube énorme. Et on va d'ailleurs en réécouter. Excusez-moi, pardonnez-moi, William Pierre. On va minute. Et puis on va enchaîner avec quelques autres des grands tubes, alors, pour le coup, qui ont suivi.
Souvenir de ce que j'en ai fait, je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît.
J'ai trouvé dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai un nain fouillé tous nos secrets. N'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins pas frais.
Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique.
We'll be right back.
évasion furtive mène ta voile vers d'autres rives. Et même si l'amour t'emporte au dehors, je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore.
En 1975, 1976, 1978, en fait c'est toute mon adolescence et plein de souvenirs qui se réveillent en trois tubes de William Scheller, mon invité. C'est très émouvant pour moi d'entendre tout ça. Et en plus, c'est vrai, ça, vous n'avez pas...
Je les écoute jamais. Et oui. D'un seul coup, je les écoute, là, sans bruit, sans rien, sans... Je les écoute avec... l'oreille que j'avais quand je les ai enregistrés.
Voilà, voilà.
Non pas avec l'oreille que j'avais quand j'en avais marre des émissions. C'est pas pareil.
Avec des petits trucs très amusants. Par exemple, dans le carnet à spirale, j'ai remarqué le couplet se termine et le refrain commence avant la fin du couplet par-dessus avec un petit mixage très original.
Oui. Mais aller faire ça sur scène.
Oui, ça c'est sûr.
Ouais, il a fallu que je compresse un peu. Mais je trouvais rigolo le fait que, hop, il y en a une qui passe et hop, qui démarre par-dessus.
Voilà, c'est bon, ça.
Oui. Mais je ne m'étais pas rendu compte parce que je ne faisais pas de scène à l'époque.
Voilà, vous faisiez du studio, mais ouais. Tout ça est très très bien fait. Là, je le redis, ce sont des beaux aussi produits musicaux d'un vrai musicien. Il y a une facture, il y a des couleurs, il y a l'utilisation des cuivres et tout ça, c'est magnifique. Et...
Bon, c'est le boulot. Là, c'est le boulot. C'est le boulot, il faut que ce soit carré dans les coins.
Voilà, c'est ça.
Ça. Alors là, le laisser aller, le machin, ouais, ça passera quand même. Non, ça j'aime pas ça.
Quelque chose que vous expliquez dans votre livre, William Scheller, qui est très frappant, c'est que vous dites que vous écrivez toujours les paroles après la musique, mais non seulement après, mais presque au dernier moment, quoi. Une fois que le morceau est entièrement composé. J'avais la semaine dernière ici Michel Jonas qui nous expliquait qu'il écrivait toujours les textes et qu'il comprenait pas comment on pouvait écrire la musique avant les textes. Vous, c'est exactement le contraire.
Mais on a eu des discussions avec Michel comme ça. Je le voyais écrire, je lui dis, mais t'as la musique? Oh non! Je lui dis, mais comment tu fais? Oh, je sais pas, j'essaye deux, trois musiques, et puis on voit. Ben, moi, c'est le contraire. Moi, je fais la musique du film, hein.
Ouais.
Quand on a les images, qu'on a l'ambiance, machin, comme ça. Je me représente. Et puis, à partir de là, je mets un bonhomme à l'intérieur, un bonhomme que je vais interpréter. Et puis, à ce moment-là, il faut lui faire dire quelque chose. Il faut bien un scénario, il faut avoir l'impression qu'on arrive après le début du film et qu'on part avant la fin. Vraiment un truc comme ça. Mais lui, alors, c'est les textes, c'était, pour ça que c'est écrit, mais alors, c'est au cordeau.
Bien sûr.
Magnifique.
Mais trouver une musique, trouver une histoire à raconter sur une musique, c'est une démarche aussi, très particulière. Une fois que le morceau existe, qu'est-ce que je vais faire vivre là-dedans? Qu'est-ce que je vais raconter sur ce refrain? Ça vient toujours facilement?
Non, parce que quand on écrit le texte d'abord, on a tendance à faire des vers métriques.
Ouais.
On fait par 8, on fait par 10, on fait par 12.
Ah oui, bon, vous avez raison.
Tandis que moi, je fais des musiques, ta-da-da-da. Alors, à partir... Ouh là là, mais quand je vais mettre... Alors, des fois, je rajoute des petits trucs. Mais, boum, comme ça, j'ai une note en plus. Enfin bon, c'est un enfer. C'est un enfer.
En tout cas, ça a donné toutes ces belles chansons qui se sont suivies pendant, on peut dire, la période 75-80, qui a été la période dorée des très grands succès, mais... Ou en même temps, le milieu du showbiz commençait déjà à vous déplaire à peine vous en étiez devenu une grande vedette, quoi.
Hein. Ouais. Ouais, oui, parce que la musique c'est beau, mais le métier c'est bête. non, mais oui, il y a beaucoup de bêtes, beaucoup de gens bêtes. Enfin, je sais pas, c'est un peu n'importe
la
quoi.
La promo, c'est une horreur. Hein.
Ben oui, surtout les promos bêtes, quoi. Enfin je me suis retrouvé un jour chanter. Dans le sud. Ouais. Devant un truc, et c'est le mec qui vendait ses tapis. Devant le. Je chantais sur scène, le mec qui vendait les tapis devant.
Ah bon.
Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non, c'est. Ça devenait. Ouais, les années 80, c'est. Oh là là. Mais j'étais surtout en Belgique, là-bas.
Ouais.
Beaucoup. Alors là, j'étais heureux. Ouais. Et puis là, j'ai commencé à faire de la scène en 80, donc ça a été un changement.
Voilà.
Ah ouais. Alors là, j'ai découvert que quand je jouais. Il y avait des silences dans la salle. Bon, on n'est pas compte avant. J'étais avec les gratteux, mais tout ça, le machin, ça faisait du bruit. Là, je me suis retrouvé par hasard au piano tout seul. Oh, On écoutait ce que je faisais. J'étais surpris. Et c'était plus la tube qu'on écoutait, c'était le mec.
Et justement, j'ai bien cru comprendre que votre vrai plaisir par la suite, et je dirais jusqu'à aujourd'hui finalement, maintenant, c'est d'être, comme vous avez dit à l'instant, tout seul avec votre piano.
Oh, bah oui, non.
Et vous en avez fait même un album tout entier, épur, hein, épur, dont on va écouter tout de suite le premier titre, où vous êtes dans Mon hôtel à votre piano.
Sous les gouttières de mon hôtel, il y a deux étoiles au long du mur, et leur lumière d'un rouge impur va comme un cœur dans la ruelle. De ma fenêtre sur le ciel, je peux voir au-delà des toitures la ville avaler ses voitures comme un long ruban d'étincelles. Pour tout vous dire, je n'aime pas le soir qui tombe, non, avec le cœur lourd et le froid dans les mains. Parce qu'encore un jour s'en va dans l'ombre et mes amours sont loin. Dans le couloir de mon hôtel, il y a deux dames seules dans la culture. J'entends parfois leur déchirure, une radio cache des mots cruels. À travers le store en lamelle, mon plafond s'allume en rayures. Allongé sur mes couvertures, j'écoute au lointain les nouvelles. Pour tout vous dire, je n'aime pas le soir qui tombe, non, avec le cœur lourd et le froid dans les mains. Parce qu'encore un jour s'en va dans l'ombre et mes amours sont loin.
Et pur, c'était en 2004, cet album de William Scheller avec ce titre Mon hôtel. Et ça, c'est, on va dire, le William Scheller au piano, qui aujourd'hui est celui qui est vraiment heureux, hein, avec son instrument.
Oui, mais je ne joue plus de piano.
Ah bon ?
Non. Ben non, quand j'ai annoncé, je ne chanterai plus jamais.
Oui, c'est vrai.
Je ne jouerai plus jamais de piano, mais je vous ai aimé, quoi. Mais je joue plus de piano. J'ai vendu mon piano.
Ah oui.
J'ai pris un petit piano droit parce que bon, je joue plus. Je sais plus jouer, dis donc. J'essaie de jouer les inventions de Bach, des petits trucs faciles. Oh là là, ça marche plus. Ça marche plus.
Ça fait suite à cette espèce de dépression dont vous parlez à la fin de votre livre, ce burn-out qui a été un moment, voilà, de transition pour vous. Et là, tout d'un coup, La musique s'est pas arrêtée parce que vous continuez à composer, évidemment.
Ah oui. Oui, quand on échappe à la mort, on voit plus la chose de la même façon. Voilà. Je dis, c'est tout ça, c'est tous ces concerts, cette fatigue, ne pas pouvoir. Il y a des moments, je voulais même plus écrire, je voulais même plus faire de musique parce qu'il fallait faire des concerts. Donc le concert primait sur la musique. Alors c'est devenu casse-pied. Donc au bout d'un moment, quand on essaie de lutter quand même, qu'on va trop loin, paf, voilà, ça se déclenche. Alors donc, j'ai dit j'arrête, et puis je vais écrire maintenant. C'est maintenant, à partir de 70 ballets, que je vais commencer à vivre ma vie de gosse, quoi, tranquille.
Oui, enfin, votre carrière de compositeur, elle avait commencé bien avant, au moins de deux façons. D'abord, avec le cinéma, parce que vous avez écrit des musiques de films comme L'écrivain public en 1993, avec déjà un quartet à cordes, je sais plus, et un piano.
Érotissimo, qui a été un gros succès dans les années 70.
Arlette de Claude Zidi en 1997, donc là vous étiez déjà compositeur, et plus que chanteur, évidemment.
Oui, il y avait du boulot, il y avait des choses comme ça. Le concerto, c'était en 80 et quelques. Non, avec les Parisiens, avec des commandes pour le festival de Sully, et des choses comme ça. Mais ça, c'était un petit peu freiné par la grosse maison disque.
Voilà,
parce que ce qui était important, c'est de refaire toujours le même clou pour pouvoir taper dessus, pour faire du commerce, quoi. Alors donc, ça gênait un peu que je fasse d'autres choses, que je m'éparpillais.
Et puis inversement, il y avait parfois certaines personnes dans le milieu classique qui vous regardaient d'un peu de haut parce que vous sortiez pas du conservatoire et qui vous admiraient comme chanteur, qui voulaient bien que vous jouiez un peu de piano, mais enfin qui ne pouvaient pas comprendre que vous soyez un vrai compositeur.
Oh, bah oui, mais ça, c'est normal. Mais ils se rendent pas compte qu'il vaut mieux avoir un maître. En fait, mon maître m'apprenait non seulement la musique, mais ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dans l'esprit, ce qu'il y a tout ça. C'était pas des... Alors, j'ai pas les diplômes. J'ai aucun diplôme. J'ai rien du tout. Et, mais, bon, le prix de Rome, j'en ai rien à foutre. Alors, non, mais ça m'a pas empêché de tout ce temps-là de pouvoir comprendre, de lire énormément, d'avoir une éducation musicale profonde par un homme savant. Qui a eu des maîtres savants, c'est pas du tout. Les profs de conservatoire sont faits pour faire des profs de solfège dans les lycées.
Ouais.
Hein.
Et
aujourd'hui, sont pas faits pour faire des maîtres.
Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup d'interprètes aiment votre musique, la jouent. Et dites-nous peut-être simplement, avant qu'on en écoute un des enregistrements, comment vous avez rencontré le Quatuor Parisien.
C'est-à-dire que oui, j'ai eu envie de partir à Vienne. Ah oui. Parce que c'est la Mecque, hein, c'est la Mecque de la musique. Bon, j'ai été boire un café dans le café où allait Beethoven, j'ai visité la maison de Mozart, enfin, surtout, c'est incroyable. Les gens jouent la musique dans la rue, quoi. Enfin, ouais. Mais pas n'importe quoi, je veux dire, c'est, bon. Et effectivement, comment je les ai rencontrés, je sais que j'ai fait cette musique de film, j'ai fait appel à eux pour cette musique. Donc j'ai dû faire un truc avant.
Voilà.
Un truc avant, et puis on a sympathisé, et puis voilà. Quoi.
Ils ont enregistré pas moins de trois disques, hein, de pièces pour Quatuor à cordes de Wilhelm Scheller.
Ah, bah oui. Et puis, d'ailleurs, le violoncelliste Philippe Martinini,
oui.
C'est lui qui a enregistré les élégies pour violoncelle et orchestre. Enfin, non, il y a quand même toute une partie du classique qui a... Comme Jean-Claude Casatu, quoi.
Et on va écouter cette petite pièce pour Quatuor à cordes qui s'appelle « Luna ». Luna, musique de Wilhelm Scheller, jouée par le Quatuor Parisi. Voilà, un bel andante classique et personnel, hein, Wilhelm Scheller.
Un peu curieux. Oui, on m'a dit, tiens, il y a des restants de forêt là-dedans.
Ah, effectivement, bah ouais, c'est logique.
Avec sa logique à lui.
Voilà. Aujourd'hui, Wilhelm Scheller, donc, vous vivez loin de Paris, vous en avez un peu marre la capitale,
oh, ouais.
Hein, comme d'autres. Hein.
Oh, oui. Comme tout le monde.
Ah ben, on est quelques-uns encore sur place quand même. Mais vous écrivez de la musique, vous avez beaucoup de musiciens qui aiment jouer vos compositions, hein. Vous êtes sollicité par des conservatoires.
Ah ben oui, ça joue dans les conservatoires. J'ai rigolé. Ah mais c'est marrant, hein, parce que ceux qui s'intéressent à ma musique décrite, hein, c'est pas tellement ceux qui ont connu les chansons d'avant, ils ont 17 ans. Ils ont 17 ans jusqu'à 20 ans, 30 ans. C'est une autre, il faut une génération et demie avant d'être compris, quoi. En général, il paraît. Bah, c'est bon.
Enfin, vos chansons, elles restent néanmoins bien dans les mémoires et ça doit pas être désagréable non plus de savoir, voilà, que vous accompagnez plusieurs générations.
Non, je dénigre pas, hein, J'ai écrit, ça a donné du plaisir, ça a donné des repères d'existence à des gens, des souvenirs, des choses. Alors ça, c'est un cadeau et puis je suis content de l'avoir fait. Mais au bout d'un moment, on passe à autre chose.
Voilà, et puis vous avez donc signé ce beau livre, William, dans lequel vous racontez mille petites choses de la vie, comme ça, d'une façon très, très, très forte, mais vous parlez aussi de vos amis, notamment Catherine Lara.
Elle venait à la maison, on jouait des valses 1900, des trucs, on a fait même une valse 1900. J'aimais bien,
Et Nicoletta, et Françoise Hardy et d'autres.
Oh, bref. C'est ma copine.
Et on va se quitter avec une chanson pour enfants, pour le coup, La Longue Échelle.
Ouais, j'ai eu cette idée. Alors on m'a dit, ouais, t'as fait comme les Beatles. Pourquoi? Parce que je me suis servi d'un truc, qu'il y a dans Strawberry Fields. Mais alors, si on peut plus servir cet instrument, parce que les Beatles s'en sont servis, plus se servir de violon, parce que Vivaldi s'en est servi. En fait, c'est ridicule, c'est l'instrument. Donc, j'ai eu cette petite idée d'un vieux château. Dedans, il y a un vieux bouquin, puis on l'a pas ouvert depuis des siècles. Et dedans, il y a des personnages qui attendent qu'on l'ouvre, puis qu'on lise la suite, parce qu'ils aimeraient bien savoir ce qui va leur arriver, quoi. C'est un petit peu leur histoire.
Voilà, cet extrait de votre album Avatar en 2008, La Longue Échelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin, William Scheller.
On se reverra.
Oh, j'ai l'impression. À bientôt.
Belle fée. dorment et vont les enfants au lit.
La longue échelle, c'était William Scheller, mon invité ce matin, dans cette chanson. Et d'ailleurs, les auditeurs sont pas du tout d'accord avec lui. Ils trouvent qu'au contraire, lui, c'est un vrai chanteur. Il dit qu'il chante pas vraiment, mais les auditeurs, eux, apprécient cette voix si particulière et si belle qu'on peut retrouver dans beaucoup de disques. On retrouve également William Scheller dans son livre autobiographique William aux éditions Équateur. Et puis, je vous recommande beaucoup le disque William Scheller par l'ensemble Ostinato avec tout un choix d'œuvres symphoniques.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et à midi sur France Musique, c'est l'heure de mon petit programme de musique légère. Hoopla, hoopla, c'est le titre de ce morceau, joué par Georg Freundorfer, sitariste virtuose, avec ses solistes instrumentaux, un disque Odéon de 1939, qu'on retrouve dans le coffret de notre regretté Pierre-Marcel Onder, fête au village bavarois chez Marianne Mélody. Il y a aussi fête au village napolitain, fête au village tyrolien, une façon de parcourir dans la musique légère les différents folklores du monde et ses styles musicaux des différents pays. Ils ont également donné avant-guerre lieu à des pastiches, à des détournements comiques qu'on oserait à peine faire aujourd'hui de peur d'offenser quelqu'un. Et c'était pourtant la spécialité de ce grand fantaisiste musical qui était Beethoven, B-E-T-O-V-E, alias Michel Maurice Lévy, grand musicien qui, dans ses folies musicales, va nous imiter tout à la fois un lied allemand, une chanson anglaise et un morceau américain, du moins tel qu'on se l'est représenté dans ces années d'avant-guerre.
Imitation. Une petite mélodie chantée par Herr Fritz Schaffhouse-Kraumakusrein, ancien bariton à l'Opéra de Berlin.
Ich zu Schlacht, ich nur dich buff. Da ganter Krauch durch die Schlacht, da ginter Graum durch die Luft. Ich han die Gröcht und die Klacht, ich tröst dich bist. Von die Klacht, ich trage die Gröcht, ich stöbe Pum Pum Pifflach, ich hacht. Bäuch dich lürt, lürt dein die Glurt, darab ich lürt, fang an die Gracht, ich an die Gracht, ich trage dich Schlacht, in der Fracht, in Daum durch Licht, von die Gracht, in der Paar, Imitation d'une petite chanson anglaise, chantée par une jeune miss extrêmement fine, extrêmement jolie.
Dans mon genre.
Ça s'appelle l'assiette anglaise. One decade to follow, Jesus can't tell it all. It's your own decade to be it all. Long to the day, the father's songs be the case. It's on my own decay, it's just been the paw. One bin bin knack around the paw. One she suspended it when it kick it went. Oh, oh, one that day, one thing just fun along this me. On the care, why should soon the care? Upon the carnival the chair. Don't really care what the tone sits down. Don't dance for the town. Lay waste time, paper on the car. It's home with the care, it's just when the chair. It already care what a sound bumping June chair away sound. The care what the hell. It don't have a stem bin, but the tension was the care was spinning the hide. Imitation d'une petite chanson d'amour américaine. Très doux, très léger, gentil comme tout. Ça s'appelle Chicago Tribune. Ça veut dire fleur bleue.
Beethoven en 1926 dans la deuxième phase du 78 tours de ses folies musicales, un disque Odéon dont je vous ferai découvrir un de ces jours la première face.
Thank you.
Tunisia Waltz, c'est une composition d'André Pop qui figurait en 1956 dans son excellent album Musique en tout genre. Et puis je voudrais vous recommander un spectacle que j'avais adoré et qui va être repris deux fois à Paris. Ce sera les 8 et 9 janvier prochains, il reste quelques places. C'est l'opérette Normandie, une opérette de 1936 qui se passe à bord du paquebot Normandie, qui a été écrite par Paul Misraki, vous savez, le musicien de Ray Ventura, de La Marquise, etc. Et puis Henri Decoing, l'auteur, le cinéaste qui a écrit le livret. C'est vraiment une excellente opérette par la Compagnie des Frivolités Parisiennes que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, les 8 et 9 janvier prochains à Paris, au Trianon. On réécoute deux petits extraits justement de Normandie. D'abord l'air du pasteur qui découvre les pas de danse à bord du bateau, et ensuite le final où vous reconnaîtrez la chanson de la Scarlatine qui fut un des grands succès de cette opérette.
C'est un pas que j'aime, c'est un joli pas. Je l'ai trouvé moi-même, c'est pas mal, n'est-ce pas? Vous voyez, je fricote, j'enmuis les combats. Croyez pas que j'ai la bougeotte quand je pivote, c'est un pas. Ce petit pas magique n'est peut-être pas très très catholique malgré ses appâts. Il y a des gens qui tiquent sur mes entrechats, mais lorsque l'on me critique, moi je réplique, c'est un pas. Je me fiche de ce qu'on pense, j'ai pas de repentir après. Et je te danse et je te redanse, puis je recommence exprès. Depuis mon enfance, j'ai dansé ce pas. Je le danserai, je pense, jusqu'à mon trépas. Mais j'ai fait d'avance mon mea culpa. C'est peut-être de l'insouciance ou de l'inconscience ou de l'insolence. Je m'en balance, c'est un pas. Rappelez-vous ce roi biblique qui devant une arche dansait. Devant un transatlantique, ça devrait faire autant succès. Que ce soit en France ou dans la pampa, sitôt que je commence, je n'arrêterai pas. Parfois même, je danse au milieu du repas. Ce n'est pas un truc mystique, ni de la gymnastique, ni des poses plastiques. Je vous l'explique, c'est un pas. Il y a des gens critique sur mes entrechats, mais lorsque le monde me critique, moi je réplique, c'est un pas.
Elle est douce, elle est blonde et je l'aime.
Je veux suivre jamais ton chemin.
Notre amour est plus doux qu'un poème. J'ai placé mon bonheur dans tes mains.
Plus rien ne nous sépare. Je suis ta femme.
Je saurai me soumettre comme un enfant.
La joie nous accapare. Quel doux programme. Et nous aurons sans doute beaucoup d'enfants.
Chérie, fêtons cette chance qui a enfin permis notre union.
Ils sont réticences, ils sont vraiment mignons.
Tu ne me tromperas pas au moins.
Bon, ben qu'est-ce que ça peut faire? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au fond de l'alba. Cher public, il est minuit, et vraiment ça nous ennuie. On voudrait vous en dire davantage, on voudrait ne pas vous décevoir. Mais hélas, c'est bien dommage, on a fini ce voyage, il faut se dire bonsoir.
Craignez pas d'applaudir, messieurs, dames, avant que l'on abaisse le rideau. Allez-y, tout ça, le tas, le signe, pas d'eau pour les bras, il y en a pour les bras.
Toute la troupe de Radio Lyrique en 1956 dans l'opérette Normandie, que vous pouvez donc revoir les 8 et 9 janvier prochains à Paris, au théâtre du Trianon. Et tiens, une autre opérette qui se passe en Normandie sur un bateau, c'est Passionnément de messager, dans lequel figure ce duo entre un riche américain qui pense à ses affaires et un français amoureux qui pense à l'amour.
ses pièces au petit signe que voici.
J'aimerais bien mieux à sa nièce faire signe de venir ici.
Il y a des gens qui lésinent, mais moi je ne lésine pas.
La pauvre petite orpheline est bien loin de Deauville, hélas.
Alors voyons, êtes-vous prêt? Je parle de votre intérêt, vous me remercierez après.
Oh oui, monsieur, je le pressens, c'est tout à fait intéressant et je vous remercie avant.
C'est une affaire extraordinaire, je ne peux vous proposer mieux. Laissez-moi faire, et signez-en fermant les yeux.
C'est une affaire extraordinaire, je ne peux vous proposer mieux.
Laissez-nous faire,
le domaine vaut peu de choses et vous vous en débarrassez.
Pour effleurer sa lèvre rose, je donnerai tout ce que j'ai.
Pour vous, avec le cours du change, c'est une riche opération.
Pour le sourire de cet ange, je risquerai la damnation.
Enfin, monsieur, c'est agaçant. Depuis que nous parlons, je sens que vous êtes distrait, absent.
Mon cher monsieur, n'en croyez rien. Je ne sais pas à quoi ça tient. J'étais sorti, mais je reviens.
C'est une affaire extraordinaire. Je ne peux vous proposer mieux. Laissez-moi faire, et signez-en fermant les yeux.
C'est une affaire extraordinaire. Je ne peux vous proposer mieux.
Laissez-nous faire,
laissez-moi faire,
et signons-en fermant les yeux.
C'est une affaire extraordinaire. Je ne peux vous proposer mieux. Laissez-moi faire, et signez-en fermant les yeux.
C'est une affaire extraordinaire. Je ne peux vous proposer mieux.
Laissez-nous faire,
René Coval et Louis Arnoux dans Passionnément, une opérette d'André Messager qui se déroule à Deauville à bord d'un yacht et probablement à quelques kilomètres de là dans l'intérieur de la campagne, on peut entendre sonner les cloches de Corneville.
Nous avons hélas perdu d'excellents maîtres et leurs revenants qui troublent notre esprit. Que nos bons seigneurs sont les nobles ancêtres qui dans ce château ressuscitent la nuit. Ils voudraient revoir leurs héritiers peut-être, et quand de l'exil nos maîtres reviendront, par un revenant de garde à la fenêtre, on dit qu'à l'instant les cloches sonneront.
On dit qu'à l'instant les cloches sonneront.
Dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig- dites donc, sonne, sonne donc, joyeux carillon.
Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic
Et voici donc la troisième de nos opérettes normandes après Normandie de Misraki, passionnément de messager bien sûr, Les cloches de Corneville de Robert Planquette, chantée ici par Jeannine Michaud sous la direction de Franck Pourcel. On va terminer cette émission à Vienne avec une grande valse, une valse qui figurera justement au programme du Nouvel An viennois que je vous présenterai le 1er janvier prochain sous la direction de Daniel Barenboim. C'est une valse de Johann Strauss très belle qu'on n'entend pas assez souvent qui s'intitule Les ailes du phénix, Phénix Schwingen, qu'on entend ici sous la direction de Laurine Mazel.
Thank you.
Johann Strauss, fils, les ailes du phénix, une grande valse jouée par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel au concert du Nouvel An 1996 et que vous retrouverez donc cette année au concert du Nouvel An sous la direction de Daniel Barenboim. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet, Cindy Legrumelec, Emmanuel Rose, réalisation Louise André. On se retrouve bien sûr samedi prochain et pour les 20 ans de la disparition de Gilbert Bécaud, j'aurai la joie d'accueillir sa fille Émilie Bécaud ainsi que le grand parolier Claude Lemel.
À réécouter sur francemusique.fr.